Il est midi 5, bienvenue pour Place des Grands Hommes. Nous croiserons bien sûr le chemin de Michel Cardoz. Michel Cardoz qui nous racontera le lien entre la chanson La Madrague, ça vous rappelle des souvenirs bien sûr, et Talence. Voilà quel est le lien. Eh bien, soyez avec nous avant 13h pour en savoir plus. Si vous cherchez licorne sur les réseaux sociaux, eh bien vous trouverez un nombre absolument fascinant d'occurrences. La licorne ou unicorne, sous toutes ses formes, associée à tous les fantasmes, on en parle dès maintenant.
France Bleu Gironde, midi, Rodolphe Martinez.
La licorne, phénomène mondial auquel s'est intéressée de façon extrêmement sérieuse l'historienne de l'art bordelaise Sandrine Duclos, qui vient de publier Licorne aux éditions La Vallée Heureuse dans la collection Personnages et créatures légendaires. Un livre passionnant qui remonte aux sources et expose et explore, on va dire, plus de 2500 ans d'histoire, mais j'ai envie de dire beaucoup plus.
Oui, un petit peu plus. Moi, je me suis intéressée à la licorne version occidentale, mais elle est beaucoup plus ancienne pour la licorne version orientale. Voilà. Mais pour nous, ça va commencer au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Alors, on va raconter tout cela. Et avant de chevaucher notre créature et de faire ce voyage légendaire, quelques mots sur vous. Vous êtes historienne de l'art, diplômée de l'École du Louvre. Vous avez collaboré, entre autres, avec le Conseil des musées de Poitou-Charentes, la Cité du Vin, l'Association des conservateurs et des collections publiques d'Aquitaine. Vous avez animé pendant 8 saisons une chronique sur France 3 Aquitaine qui faisait découvrir des œuvres d'art des musées aquitains, puisqu'il y a un patrimoine absolument formidable.
Fantastique, fabuleux. Voilà. À découvrir.
Et votre idée, c'est toujours d'inviter ceux et celles qui nous écoutent à aller pousser la porte des musées sans complexe.
Oui, sans complexe aucun, et aller à la découverte. On n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup de livres, ni rien. Simplement le plaisir de regarder, de s'interroger, de prendre du plaisir. Voilà, il est là avant tout.
Alors, prendre du plaisir et puis transmettre aussi, puisque vous intervenez à l'ICAR, l'École des métiers de la culture et du marché de l'art à Bordeaux, et vous initiez à l'iconographie, et puis vous faites de la médiation, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, mais il y a un centre commun quand même. C'est la culture, c'est l'art et la transmission, voilà.
Alors, entrons dans le vif du sujet. D'où vient d'abord votre fascination pour ces êtres? Alors, on pourrait, mais c'est un abus de langage, si on disait être chimérique.
Non, c'est pas une chimère.
Animal fantastique.
Animal fantastique, exactement. Non, la chimère, c'est encore autre chose. Je dirais même un petit peu plus compliqué. Alors, comment je m'y suis intéressée? Eh ben, je suis maman. Donc, j'ai une petite fille qui a un petit peu grandi maintenant. Bref, donc, elle voulait des licornes, des chaussons licornes, de toutes ces choses-là. Et puis, je m'y suis intéressée, comme à tout le monde. Et puis, je m'y suis intéressée de manière un peu plus profonde. J'ai eu l'occasion de travailler sur les êtres fantastiques dans les voyages de Marco Polo. Et donc là aussi, je vois la licorne. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et puis, chose faite. Et puis, j'ai trouvé cet univers assez passionnant. Voilà, parce que finalement, s'occuper de la licorne, essayer de voir d'où elle vient, comment on l'a imaginée blanche, parce qu'elle n'a pas toujours été blanche, jolie, mignonne, gentille. Elle est plutôt méchante, et puis plutôt très vilaine d'ailleurs aussi, au tout départ. Comment on en est arrivé là, voilà. Et puis c'est traverser l'histoire des hommes aussi, ceux qui font des images, ceux qui les reçoivent, et puis ce qu'on en fait maintenant.
Voilà. Et il y a une iconographie très importante dans votre livre. Il y a énormément de documents qui nous permettent de mieux comprendre effectivement la traversée de la licorne dans l'histoire des hommes. Alors vous le dites, la licorne c'est la star d'Internet, mais bien avant les réseaux sociaux, la licorne est partout. 2500 ans pour ce qui concerne donc notre sphère, le monde occidental, mais on va dire peut-être dès la préhistoire, on a ces animaux fantastiques qui apparaissent sur les murs.
Oui, attention, il y a dans la grotte de Lascaux, celle des taureaux, un animal que les chercheurs n'en ont pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, réussi à déterminer de quel animal il s'agit. Et vraisemblablement, c'est un animal de l'ordre du fantastique. Il se présente de profil et il est cornu, il y a 2 cornes. Et ils l'ont donné le nom de licorne. Mais en tous les cas, elle n'a rien à voir avec nous, la licorne qui nous intéresse à l'heure actuelle.
Donc, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, c'est ça, quand on étudie, c'est ce que vous faites, vous, très précisément. C'est-à-dire, il peut y avoir des confusions. On pourrait prendre des licornes pour des lanternes, c'est ça. C'est un petit peu ça. Ouais. Donc, vous avez étudié tout cela de près. Et on va voir d'ailleurs aussi que le mot licorne, c'est un mot assez tardif.
Oui, tout à
licorne
fait.
Ou unicorne.
Voilà. D'abord, on va l'appeler monocéros, c'est-à-dire à corne unique. C'est du grec, qui va devenir unicornis. Toujours à corne unique, unicorne, et après qui va devenir à licorneau et licorne après, mais pas avant la fin du Moyen-Âge, et ça correspond à l'époque où elle va se fixer, hein, l'iconographie telle qu'on la connaît maintenant, un petit cheval blanc avec la belle crinière, une petite barbiche, parce qu'à un moment donné, elle a été un petit peu un bouc aussi, la licorne, et puis des sabots fendus. Voilà, c'est à partir du même moment, on va l'appeler licorne, et elle va prendre l'image qu'on la connaît, qu'on connaît maintenant.
Si vous voulez tout savoir de la licorne, eh bien, restez avec nous sur France Bleu Gironde. Sandrine Duclos est notre invitée. Elle publie donc dans la collection Personnages et créatures légendaires aux éditions La Vallée Heureuse, Licorne, un livre tout à fait passionnant.
France Bleu Gironde, place des grands hommes.
Ce soir, lorsque vos enfants, les filles en particulier, vont rentrer à la maison, vous pourrez leur raconter des histoires de licornes. Vous pourrez leur dire « Je sais tout des licornes ». Grâce au livre de Sandrine Duclos, qui est notre invitée aujourd'hui, « Licornes au pluriel, collection personnages et créatures légendaires » aux éditions La Vallée Heureuse. Alors on l'a dit, ça n'est pas un personnage chimérique, ça n'est pas un animal chimérique, il s'agit d'un animal fantastique, oui. Qui appartient donc au bréviaire des animaux fantastiques.
Oui, comme il y en a plein. Quand on parle d'animaux fantastiques, maintenant, effectivement, on parle à lui, on va penser aux griffons, aux dragons, à tous ces animaux-là. Mais il y a une époque, je parle au Moyen-Âge, même à l'Antiquité, hein, et puis même, on va dire Moyen-Âge-Antiquité, en tout cas Moyen-Âge, pensait que ces animaux étaient réels. Hein. La licorne, elle est mentionnée dans la Bible. Hein. Donc, hors de question de dire qu'elle n'existe pas.
Alors, il a fallu attendre la Renaissance pour qu'on se pose quelques questions, c'est ça ?
Oui, alors même avant, Aristote qui la mentionne, on sent quand même qu'il a quelques doutes. Hein, voilà, il y a toujours eu un petit peu de doute, mais quand même, la licorne, on en parlait, elle existait. Effectivement, à la Renaissance, ils se sont dit, des chercheurs, on voit le monde différemment à cette époque-là, de manière un peu plus scientifique. Hein, tout n'est pas que l'œuvre de Dieu, y compris, on va chercher à comprendre quand même comment ça marche. Et la licorne, depuis l'Antiquité, sa corne n'a cessé de grandir pour atteindre à peu près les 3 mètres. Voilà, et on se pose la question, c'est comment un animal qui n'est pas très grand, hein, c'est un petit poney en fait, hein, peut arriver à maintenir une corne de 3 mètres de long. Voilà, on commence un petit peu à se poser des questions là, et puis on se dit, mais personne n'a vu en fait la licorne. Hein. Il y en a qui décrivent tout ça, il existe finalement plein de sortes de licornes, hein, c'est pour ça que j'ai mis licorne au pluriel. Aucun témoignage ne concorde, on ne sait pas, voilà, bon, après tout, alors. Ceux qui croient vraiment à la licorne, eux, par contre, disent bah, c'est normal qu'il y ait des témoignages de concorde pas, parce que la licorne, elle ne se laisse pas voir à tout le monde. Elle est difficile.
Oui,
voilà.
Et alors,
ces deux camps, oui, et puis ces deux camps, ils vont s'affronter à coups de publication. Ce sont des savants, hein, quand même, et qui vont s'affronter à coups de publication pour défendre leurs idées. Mais à un moment donné, on remarque quand même que les cornes de licorne, hein, qui se trouvent, hein, se trouvent plutôt dans les pays du Nord. Hein, près de la mer. Et voilà, petit à petit, il y en a qui pensent même que du coup, il existerait des licornes de mer. C'est-à-dire une licorne, comme vous l'imaginez, avec une queue de poisson et des pattes avant palmées. Voilà, avec sa corne qui dépasse.
Dans les eaux, il y a le narval.
Et voilà. Et finalement, on va quand même, à un moment donné, faire le rapprochement, parce qu'il y a des voyageurs quand même. Hein, le monde du Nord, je pense qu'en Scandinavie, tout ça, même l'eau de l'Angleterre, c'est pas des terres incognita. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des explorateurs qui y vont, hein, il y a des pêcheurs, il y a tout ça. Donc, à un moment donné, ils aperçoivent effectivement la corne. Et puis, un animal qui ressemble pas à ce qu'on leur a dit sur la licorne, une licorne de mer. Et puis, on va commencer à l'étudier. Début 17e, on commence à avoir des très, très, très gros doutes. Or, le narval est étudié milieu du 17e siècle. Et un petit peu plus tard, on fait vraiment la correspondance entre la corne de narval et la corne de licorne. Et à partir de ce moment-là, effectivement, elle rentre uniquement dans le domaine des poètes, dans le domaine des écrivains, et délaisse celui de la science en tant qu'animal.
Alors, il y a des images qui sont très surprenante hein, dans votre livre, dont une, hein, c'est donc l'Arche de Noé. Donc on voit les animaux qui montent à bord de l'Arche de Noé.
Et des licornes.
Et il y a des licornes.
Et voilà. Oui, parce qu'elle est dans la Bible. Hein, à 8 reprises, elle est mentionnée dans la Bible sous le nom de Rem, R-E-E-M, qui est en fait une erreur de traduction entre la Bible hébraïque, donc il y a Rem, la Septante en grec, la Vulgate, traduction en latin, et on a traduit Rem par Monokéros. Et puis après unicornis, puis après licorne, pour désigner ce qui finalement apparemment serait un buffle sauvage. Voilà, donc elle est dans la Bible, donc elle existe. Donc on va la voir monter
avec les autres. Si elle est dans la Bible, c'est qu'elle existe.
Mais bien sûr, d'ailleurs, quand Ambroise Paré, le chirurgien, va commencer à se poser des questions quant à l'existence de la licorne, et surtout le pouvoir, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, le pouvoir de sa corne, il risque l'excommunication, parce que la licorne, elle existe.
Sandrine Duclos, on se retrouve dans un instant pour continuer de parler de la licorne et de sa personnalité, hein, parce que ça n'a pas toujours été l'être fantastique, merveilleux,
gentil, non,
qui marche sur un arc-en-ciel. Hein.
Non,
la licorne est bien plus mauvaise
elle
que ça.
Elle a un cri horrible.
France Bleu Gironde.
Avec notre invitée aujourd'hui, Sandrine Duclos, nous parlons dans Place des Grands Hommes des licornes. Il y a un livre pour vous faire raconter toute cette histoire qui est vraiment surprenante, hein, qui traverse l'histoire des hommes. Licorne, donc aux éditions La Vallée Heureuse, dans la collection Personnages et Créatures Légendaires. Alors, parlons un peu de la personnalité de la licorne et de ce qu'elle évoque. On a parlé de sa forme, hein, donc multiforme à travers les siècles, mais sa personnalité, là aussi, on est très très loin de l'image actuelle de la licorne, c'est-à-dire cet être absolument merveilleux, donc
qui vit dans un monde de paillettes.
De paillettes et qui vit dans un arc-en-ciel.
Qui vit dans un arc-en-ciel, alors pas du tout. La licorne, revenons rapidement sur son physique, hein, parce que quand même, avant qu'elle ait l'image qu'on lui connaît, donc à la fin du Moyen-Âge, elle ressemble un petit peu, elle a une tête de cerf, hein, elle a des pattes d'éléphant, elle est rouge, bleue, jaune, tachetée, elle a une queue de sanglier, elle a la langue des épines, nous dit Marco Polo, elle a un bruit horrible, elle vit seule, parce qu'elle ne supporte personne, la licorne. Elle n'est pas gentille, en fait, pas du tout, elle est méchante. Avec sa corne, elle empale ceux qui tentent de l'attraper, parce qu'impossible, impossible d'attraper une licorne, on ne peut pas, elle ne veut pas.
Il faut être très rusé, hein, pour l'attraper.
Oui, il faut utiliser la ruse, c'est-à-dire la traîtrise au Moyen-Âge. C'est comme ça qu'il faut prendre vraiment la chose, c'est on l'a par traîtrise. Voilà, donc elle est pas gentille, sauf à la saison des amours, parce qu'il faut quand même bien perpétuer l'espèce, hein, un petit peu. Donc là, elle va aller avec licorne mâle, licorne femelle, quelque temps, histoire de se reproduire, et le résultat ne supporte pas ses congénères, mais quand même, elle est gentille avec les autres animaux, puisqu'avec sa corne qui a des pouvoirs magiques, elle peut purifier l'eau. Voilà. Un animal intéressant. Pour toutes ces choses-là.
Alors, on a beaucoup fantasmé, bien évidemment. Cette corne, elle fait fantasmer. Les cornes de rhinocéros font encore fantasmer.
Vous parlez d'une corne fièrement dressée sur la tête.
Bien sûr,
ça fait fantasmer.
Bien sûr, alors racontez un peu ces histoires de vierges et donc aussi tout le fantasme autour
de cette corne. Pour attraper une licorne, il faut utiliser la ruse. Vous l'avez dit, la traîtrise, vraiment ça. On met une jeune fille vierge, pure, parce que la licorne ne peut pas résister à l'odeur des vierges. Ne me dites pas comment, c'est comme ça. Elle ne résiste pas. Donc on met une jeune fille nue ou habillée, hein, dans les représentations, il y a les deux, elle est quand même un peu plus souvent habillée, on la met là et on attend. Et les chasseurs se cachent, eux, derrière. La licorne, donc, elle peut pas résister à l'odeur de la vierge, donc elle s'approche, elle devient toute douce, comme si elle était à moitié hypnotisée, à moitié endormie, et elle va poser sa tête sur le giron de la vierge, et là, les chasseurs peuvent partir et poum, la transpercer, et on le voit sur les représentations, le sang s'agite, là, c'est un petit peu gore quand même. Hein. C'est pas rien, parce que je vous ai dit qu'elle était dans la Bible. Mais cette chasse-là à la licorne, elle a une symbolique chrétienne très forte, hein, puisque du coup...
Alors justement, quelle est l'utilisation de la licorne par les hommes de pouvoir? Pourquoi?
Par les hommes de pouvoir, en tous les cas, par les hommes de pouvoir, hormis la chrétienté, on ne va pas parler des princes de l'Église, on parle les hommes de pouvoir, eux, c'est d'avoir une corne de licorne entière dans leur trésor, hein, dans le cabinet de curiosité, dans leur trésor, il y en a très 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 peu, hein, et ça coûte très 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 cher, donc en avoir, c'est signe de pouvoir, voilà. Avec toute la magie, hein, qui va autour de la corne. Pour la religion chrétienne, pour les chrétiens, ceux qui vont éduquer les chrétiens, on va dire plutôt ça, la licorne, elle est utile parce que elle est petite, hein, comme Dieu est humble. Voilà, hein, il n'a pas hésité à se mettre dans la peau d'un homme pour parler à ses fidèles. La licorne, elle est insaisissable, comme peuvent l'être tout ce que Dieu veut pour les hommes. Elle est très rapide. Comme l'est la vie elle est brève, elle est rapide. On peut pas l'attraper, comme on ne peut pas saisir tout ce que Dieu veut faire pour nous. Et dans la Bible, on va voir qu'elle va être aussi l'instrument pour chasser les impies, cette licorne avec sa corne, hein, qui va servir de lance, de flèche, tout ça. Voilà, elle sert à ça, cette licorne, et elle sert aussi à montrer l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans un psaume qui dit « La licorne n'a qu'une corne, comme Dieu et moi ne faisons qu'un ». Voilà. Et on va voir finalement cette ruse pour attraper cette licorne où il faut la vierge et l'animal. La vierge va se transformer en la vierge, pardon, avec un V majuscule, hein, la mère de Dieu, où là, la licorne va représenter le divin qui va s'incarner dans la Vierge Marie, l'Annonciation.
Voilà, donc très métaphorique, hein, en l'occurrence, la licorne. On va continuer d'en parler au cours de cette émission. Hein. C'est tout à fait passionnant. Alors, donc dans l'histoire des hommes et puis jusqu'à la pop culture aujourd'hui, on abordera donc cette licorne et ses représentations désormais multiples. Voilà, comme je le disais en tout début d'émission, comme vous le dites, hein, on peut pas taper le mot licorne ou unicorne sur les réseaux sociaux, sur Internet, sans voir apparaître des millions et des millions d'images. Pourquoi vous avez une explication. Et puis dans quelques instants, comme nous le faisons chaque semaine, on ira se balader dans les marais de Montferrand en compagnie de José Ruiz dans Pierre et Nature.
Nous
Sandrine Duclos est notre invitée dans Place des Grands Hommes jusqu'à 13h.
France Bleu Gironde. France
Bleu. Une nouvelle saison de Place des Grands Hommes avec notre invitée aujourd'hui, Sandrine Duclos, pour un livre tout à fait passionnant, illustré, avec qui vous pourrez cheminer dans l'histoire des hommes à travers les représentations de la licorne. C'est un livre sur les licornes, parce qu'il n'y a pas qu'une représentation de licorne, il y a de nombreuses représentations de licorne. On apprend cela dans votre livre, Sandrine Duclos, livre paru aux éditions La Vallée Heureuse dans la collection Personnages et Créatures Légendaires. On va faire un autre voyage, si vous le voulez bien, Sandrine Duclos. On va aller du côté des marais de Montferrand. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez bien la région?
Là, non, là, je vous le dis. Mais j'ai hâte de découvrir.
Et bien alors, justement, nous y allons avec José Ruiz.
Bottes en caoutchouc et vêtements en manches longues pour les moustiques, c'est une expédition dans les marais de Montferrand que je vous propose. Des marais de Montferrand sur lesquels l'association du même nom veille depuis 1946, date de sa création. Aujourd'hui, Laurent Barbe en est le président et il nous plante le décor.
On est à la pointe, c'est la presqu'île, on est enfermé entre Garonne et Dordogne, on est vraiment le lieu où se rencontrent les fleuves et les gens.
Et là, c'est le petit marais par exemple. Être là, avoir cette association, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Alors, ça veut dire œuvrer pour préserver le lieu et à la fois le faire découvrir au jeune public, au public plus ancien. On organise une balade une fois par an, auquel sont conviés tout public. Cette année, elle s'est déroulée dans le Grand Marais. Et on fait une deuxième manifestation qui est la journée de la pêche à l'écrevisse.
Sinon, l'entretien des marais, il consiste en quoi?
Alors, l'entretien des marais, c'est l'entretien des jales surtout. Voilà, il faut maintenir le réseau hydraulique qui alimente et les jales et les blancs des chasseurs. L'autre mission est aussi d'entretenir l'intérieur des marais avec par exemple des campagnes de fauchage pour limiter le développement des joncs. Ça se fait en dehors des moments de nidification, notamment des animaux.
Voilà. Oui, parce que lorsque l'on fauche, on découvre également des yeux de nichage.
Ah oui, tout à fait. Voilà, l'important, c'est vraiment la préservation du biotope. Donc si on fait ces campagnes de fauchage au moment de nidification des oiseaux, par exemple, on les dérange et on perturbe ce biotope si riche.
En tant que président d'association et en tant qu'association, vous décidez vous-même de ce que vous avez à faire ou il y a un cahier des charges?
Non, on travaille en étroite collaboration justement avec la commission syndicale des marais, avec Monsieur Dutruche qui en est le président. On se dresse vers lui pour savoir identifier les besoins et nous on est là pour soutenir le plus possible, soit manuellement, soit financièrement, à notre modeste échelle, certaines campagnes d'entretien du marais.
Qui va consister donc, alors on a dit le fauchage, et
voilà.
Puis
et puis voilà, des moments d'entretien comme aujourd'hui, où on coupe le jonc, on essaye d'enlever aussi la jussie, qui est aussi cette fois-ci une espèce invasive mais végétale, qui empiète de plus en plus sur les marais. Donc ça va être des actions de ce point-là, voilà. Alors il y avait avant un ancien fabricant de paniers qui venait apparemment, mais ça c'est les anciens qui ont cette mémoire et qui en ont parlé.
C'est pas une légende, c'est une
non,
réalité.
Non, c'est une réalité, voilà, qui venait, notamment un viticulteur qui venait récupérer les joncs pour pouvoir ficeler les rameaux des vignes, justement, et malheureusement ce savoir se perd.
Pourquoi vous et d'autres, vous êtes-vous engagés dans la défense de cet espace? Ce n'est pas le cas de tous les habitants du secteur, d'autant que 7 communes sont concernées par ces marais.
Oui, c'est vrai, mais on est vraiment, Embarras-et-la-Grave est vraiment à la limite, on est vraiment attenante et les petits marais font partie de la vie de tous les jours des Embarrésiens. C'est quand même un territoire qui nous appartient et c'est vraiment important de le maintenir ainsi.
Donc vous avez décidé de consacrer une partie de votre temps à cette sauvegarde.
Oui, c'est cela, exactement.
Les marais de Montferrand sont sur la presqu'île d'Ambès et s'étendent sur 280 hectares de terres marécageuses. Ils sont gérés par un syndicat intercommunal qui regroupe les 7 communes de la presqu'île.
À découvrir tout au long de cette semaine dans Pierre et Nature avec José Ruiz et à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Sandrine Duclos est notre invitée jusqu'à 13h pour Place des Grands Hommes. On parle des licornes, animal fantastique qui traverse l'histoire des hommes, l'iconographie et les écrits depuis très très longtemps. Revenons donc au paysage que nous évoquions avec José Ruiz il y a de cela quelques instants. Vous, en Gironde, quels sont les paysages qui vous inspirent?
Alors, moi, j'aime beaucoup le bassin. Mais alors, le bassin, bon, j'aime le Cap Ferré, comme tout le monde, ou Arcachon. Mais non, ce que j'aime bien, c'est Audenge. Ce coin-là, je trouve qu'il y a un côté un peu suranné, un peu tranquille, un peu hors du temps. Et le bassin, vu de ce côté qui est assez marécageux, qu'on parlait de ça, voilà. Moi, j'avoue que c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'y balader ou simplement rester, regarder. C'est fabuleux. Le Médoc aussi. J'aime bien les vignes. Voilà, je trouve que c'est joli, surtout à cette période-là. Ça, avec l'automne, ça va être magique. Et puis après, sur Bordeaux, moi, il y a un endroit qui me fait rêver. Je trouve qu'il est passionnant, c'est la Basse Sous-Marine. Ici, il passe des choses. Et le lieu en lui-même, il a un côté un petit peu étrange. Voilà, un petit peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup.
Un décor qui a quand même beaucoup changé aux alentours de la Basse Sous-Marine.
Oui, plus. Et puis qui change encore, oui. Les alentours, oui.
C'est ça.
Vous dites bien, oui, tout à fait.
Alors, il y a aussi des lieux peut-être qui peuvent vous inspirer du point de vue du travail. Vous êtes historienne de l'art. Il y a peut-être des lieux que vous aimeriez conseiller à celles qui nous écoutent. Au-delà de la base sous-marine dans laquelle il y a en ce moment d'ailleurs une exposition.
Alors,
de street art.
Alors moi, le premier conseil que je leur donnerai, c'est de se balader, ne serait-ce que dans les villes. Alors moi j'ai parlé de ma ville, qui est bordelaise, c'est de se promener le nez en l'air, on va faire attention de ne pas tomber, mais il y a beaucoup de choses en termes d'ornement, et moi je le fais encore et je le fais régulièrement, et je suis toujours épatée par tout ce qu'il y a à voir finalement, et c'est gratuit, ça demande pas grand-chose, et il y a vraiment des choses, de très très belles choses, véritablement. Après, je crois qu'il y a peut-être un musée à redécouvrir, alors il y en a deux, il y en a un que j'aime beaucoup, le musée des arts décoratifs, qui propose des choses très très bonnes, excellentes, et puis l'endroit est vrai chouette. Et pour la collection, le musée des Beaux-Arts, bon, vous l'avez dit, je suis historienne de l'art, donc c'est plutôt une formation classique à l'école du Louvre en tous les cas, et il y a de très très belles collections, il y a de très très belles œuvres vraiment à découvrir, et l'entrée c'est gratuit une fois par mois, et c'est pas cher, vraiment c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma par exemple.
Soyez touriste donc dans la ville de Bordeaux. Vous n'avez pas trouvé de représentation de licorne dans Bordeaux?
Dans Bordeaux, non, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans les armes de château, dans le Médoc, oui.
La licorne, c'est votre sujet. Il y a un livre à découvrir, à lire, Licorne au pluriel, signé Sandrine Duclos, qui est notre invitée, pour quelques minutes encore, dans Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde.
France Bleu Gironde, 11h, 13h, Rodolphe Martinez.
Un moment passionnant avec Sandrine Duclos sur France Bleu Gironde, dans Place des Grands Hommes, autour de son livre Licorne au pluriel, dans la collection Personnages et créatures légendaires, aux éditions La Vallée Heureuse. Alors, on a parlé de la licorne, enfin, brièvement, parce que je renvoie tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à votre livre extrêmement bien documenté, qui a nécessité beaucoup, beaucoup de travail. Revenons donc à notre époque, époque de pop culture, oui. Avec des occurrences très, très nombreuses sur Internet. La licorne est partout. Oui. Et alors, c'est un animal, enfin en tout cas, aussi masculin que féminin en l'occurrence. Oui. Ce ne sont pas simplement les petites filles qui aiment les licornes, les garçons aussi.
Oui, alors les garçons aussi. On va expliquer un petit peu.
Oui, bien sûr.
Donc effectivement, tout ce qu'on voit dans les magasins de décoration, de trucs comme ça, je parlais des chaussons licornes, voilà, d'accord, on s'est plutôt fait pour les petites filles. Mais quand même, quand en 2010 est sorti « Les poneys, c'est magique », qui était une rediffusion, on a refait un dessin animé qui datait des années 80, hein, My Little Pony, où en fait, c'est là que la licorne avec son arc-en-ciel, de toutes les couleurs, avec les paillettes, tout ça, est née. Ce sont des poneys, donc des licornes qui ont des pouvoirs magiques avec leurs cornes. Bref, 2010, on refait un petit peu ce dessin animé-là, qui a eu beaucoup de succès. Et là, va se créer des espèces de groupes de fans, et là on va trouver des hommes, des brownies, c'est-à-dire pour bro pour brother et niece pour ponies, des garçons entre eux, on va dire une vingtaine d'années jusqu'à 50, 60 ans, hein, qui se mettent ensemble et qui parlent des licornes. Mais quand vous allez sur Internet, il y a des tutos de fées, alors notamment pour la coiffure licorne. Moi, c'est mon rêve d'avoir une coiffure licorne, mais je ne peux pas parce que je porte les cheveux courts. Mais vraiment, toutes les filles qui ont les cheveux longs, faites-vous une coiffure licorne, allez voir, il y a plein de tutos. Et il y a beaucoup d'hommes, hein, qui font ces tutos, qui font soit les coiffures ou qui se font faire des coiffures licorne.
Sandrine, comment vous expliquez ce succès de la licorne à notre époque?
Ben, elle a toujours été là, hein, quand même. On le voit, hein, depuis très longtemps. Voilà, il y a cet animal. On ne sait pas s'il est vrai, s'il est réel ou pas. Hein. Moi, quand j'ai discuté de ce livre-là avec des personnes adultes éduquées, tout ça, il y en a qui m'ont dit mais la licorne, elle existe. Je dis alors non. La licorne, elle n'existe pas. Un animal quadrupède à corne unique, oui, ça existe, hein, ça s'appelle un rhinocéros indien, et ça existe. Par contre, animal quadrupède avec une corne de 3 mètres de long qui a des pouvoirs magiques, non, ça n'existe pas. C'est vous dire quand même, il y a une empreinte, mine de rien, elle fait partie du bestiaire fantastique, c'est-à-dire quand on veut créer cet univers de fantasy, de choses comme ça, et il y en a dans Harry Potter par exemple, et on s'attendrait, s'il n'y en avait pas eu, on serait très déçus quand même, voilà. Donc elle est là, la licorne.
Et en même temps, dit quelque chose de la société, on se réfugie auprès de la licorne.
Moi je crois que la licorne, elle a ce petit côté impertinent. Ouais, tel qu'on la voit maintenant, c'est-à-dire même avant, on l'embête pas la licorne, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, elle vit seule, et puis si elle a envie de sauter sur l'arc-en-ciel, elle saute sur l'arc-en-ciel, si elle a envie d'être bleu, rouge, vert à paillettes, machin, elle est bleu, rouge, vert à paillettes. Moi je trouve qu'elle a ce petit côté rock'n'roll, un petit côté impertinent, et je crois que c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche quoi? Enfin, les gens sont pas dupes, elle existe pas quand même la licorne, on le sait. Mais on aimerait bien qu'elle existe. C'est peut-être notre part à nous, vous savez, de merveilleux, de fantastique. On voudrait tendre vers ça, on en a besoin aussi. Puis je sais que le climat actuel, il est pas rigolo. On a peut-être besoin de ça. Et c'est ce qu'elle incarne, je pense. C'est vraiment l'animal de l'ailleurs, mais pas qu'un ailleurs géographique. Un ailleurs, c'est-à-dire là aussi, on aimerait être, on pourrait faire ce qu'on veut, finalement. Hein. Puis elle est plutôt sympa, quand même, la licorne.
Il faudrait faire rentrer une licorne au gouvernement, c'est ça, ce que vous nous dites?
Ben, peut-être.
Alors, animal concurrencé par le flamant rose.
Alors, j'ai remarqué, là, c'est la rentrée, il y a tout un tas de choses, qu'à côté des chaussons licornes, qui sont très jolis, se trouvaient des chaussons flamant rose. Attention, flamant rose avec une couronne dorée. Voilà. Je pense qu'en termes de motifs, hein, il y a une concurrence là entre la licorne et le flamant rose. Alors une avec un petit coup, mais une grande corne, et l'autre un grand coup, mais sans corne. Je ne sais pas qui va gagner. Voilà. Mais là, on est vraiment sur du marketing. Hein, c'est du motif.
Mais ça n'est pas un animal fantastique. C'est très beau.
Et non, et en plus, il dit rien. Comme ça, c'est très pratique.
Voilà. Alors, ce qui est très chouette avec vous, hein, Sandrine Duclos, c'est que vous avez fait un travail extrêmement sérieux, hein, d'historienne de l'art sur ce sujet, la licorne, mais vous en parlez avec une forme de désinvolture et d'humour qui nous plaît beaucoup. Donc, c'est à lire Licorne, ce livre. On se retrouve dans quelques instants avec Michel Cardoz qui va nous expliquer le lien entre la madrague et Talence. Et puis on dira quelques mots aussi, non pas des licornes, mais de votre prochain travail, de votre prochain ouvrage sur lequel travaillez en ce moment.
France Bleu Gironde.
Notre invitée aujourd'hui, Sandrine Duclos, historienne de l'art. Elle publie Licorne, un livre formidable, très très instruit, très documenté sur ce phénomène de la licorne qui traverse l'histoire des hommes. Et pas simplement sous nos yeux, hein, vous le découvrirez en lisant ce livre. C'est aux éditions La Vallée Heureuse dans la collection Personnages et Créatures Légendaires. Sandrine Duclos, si je vous parle de l'été, si je vous parle de la madrague, ça vous rappelle quelques souvenirs?
Alors moi, j'y étais pas, je suis un peu trop jeune pour être la madrague, mais je vois de quoi vous parlez, oui.
Alors, écoutez l'explication, parce qu'il y a un lien entre la madrague et notre région. Les explications avec Michel Cardoz dans l'Histoire du jour.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Bon, ce début de ritournelle vous dit évidemment quelque chose. Vous entendez non pas ma voix, mais la voix chuchotée de l'ensorceleuse Brigitte Bardot d'époque. Je veux parler de l'an 1962, plus d'un demi-siècle au compteur pour l'ère de la madrague. L'auteur, moins connu que sa chanson, s'appelait Gérard Bourgeois. Il est mort à Talence en 2016, obsèque à la cathédrale Saint-André. Gérard Bourgeois avait composé pour toutes les voix de Richard Anthony, à présent tu peux t'en aller, d'ailleurs il est parti, à Dick Rivers qui est toujours là, Jean-Guy Donny aussi, Marcel Amont, bon anniversaire Marcel, et Gréco ou Barbara. Palmarès impressionnant, il lui suffisait de se mettre au piano à Gérard Bourgeois, le parolier lui soufflait une phrase, un vers, un mot, et la mélodie surgissait entre les touches noires et les touches blanches. En fin de parcours, il avait vécu à Poitiers où il avait créé une salle où les amateurs pouvaient se mesurer, une sorte de radio-crochet, me dit Véronique, un témoin. Il était né, Gérard Bourgeois, en 1936, à Paris, l'année même où le groupe Octobre, les frères Prévert, Raymond Bussière, Annette Poivre, Maurice Baquet, Yves Allégret et plein d'autres, animaient en chanson des spectacles pour les usines en grève. Oh, une autre époque. À peine 30 ans après, la complainte de la plage abandonnée, fin d'été nostalgique d'une jeune star en bikini, surgissait sous les doigts de Gérard Bourgeois. C'est le tourniquet des époques.
Étonnant, hein, vous connaissiez l'existence de Gérard Bourgeois ?
Mais pas du tout.
Voilà, alors que vous êtes de Talence.
Et je suis de Talence, exactement.
Voilà, Gérard Bourgeois, donc l'auteur de la fameuse chanson La Madrague. Merci beaucoup, Michel Cardoz, d'avoir réveillé nos souvenirs, nous avoir appris, comme vous le faites chaque jour, plein de choses. Demain, on parlera de l'été 89. Il se passe des choses dans les pays de l'Est en 1989. Et il y a des répercussions jusqu'à Bordeaux. L'histoire du jour à retrouver en podcast sur FranceBleu.fr. Quelques minutes encore avec vous, Sandrine Duclos, à propos de votre ouvrage donc sur les licornes, collection personnages et créatures légendaires aux éditions La Vallée Heureuse. Je le disais, un livre très documenté, avec une très riche iconographie, énormément.
C'est un bon support. Hein. Ouais. En plus, j'ai vraiment essayé d'en trouver, de trouver des images qui n'avaient pas encore été montrées. Je fais le fin fond des musées un peu dans le monde entier pour essayer de trouver des images qui n'avaient pas encore tellement été montrées. C'est important, c'est un bon support, hein, l'image. Moi, l'iconographie, c'est mon domaine de spécialité, entre guillemets, que j'avais au Louvre, donc c'est important pour moi.
Et ce que vous faites avec les enfants, à vous leur montrer aussi des
exactement,
images,
hein, oui.
Ça participe de la transmission et de la médiation.
Exactement.
Donc, le travail que vous faites auprès des enfants. Vous nous l'avez dit il y a de cela quelques minutes, donc des licornes sur certaines armoiries de châteaux en Gironde.
Oui, alors je ne me rappelle plus exactement quel château. Il me semble qu'ils sont au nombre de deux. On est dans le Médoc. Effectivement, c'est une licorne héraldique, hein, puisqu'elle est dans les blasons. Hein, la licorne, très souvent avec le lion.
Elle et qu'est-ce qu'elle dit, la licorne ?
Alors, la même chose qu'elle dit en règle générale, c'est-à-dire symbole de pureté, de chasteté, de protection, puisqu'elle guérit, elle fait que l'eau ne soit plus empoisonnée pour que les autres animaux puissent aller boire. Quelque chose aussi d'invincible, puisqu'elle ne se laisse pas prendre. Voilà, tout ce que la chevalerie va chercher à incarner. Hein. Donc, elle va l'incarner, et puis après, ça se retrouve un petit peu comme ça.
D'impertinence et de liberté. En tout cas, c'est tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Hein.
Oui, pour moi, en tous les cas, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, oui. Impertinence, liberté. Un peu, on aurait plus ces règles, un petit peu, dans la société, il en faut des règles, bien évidemment. On va pas vivre dans l'anarchie, n'importe quoi. Mais à des moments, elles sont lourdes. Et je crois qu'elles sont un petit peu de plus en plus lourdes aussi. Et du coup, on a besoin de ça. Voilà, ce petit moment de liberté, d'impertinence, je pense. Elle l'incarne assez bien, je pense, la licorne. Du côté magique, de toute manière.
Alors, sous nos cieux, depuis 2500 ans, on parle donc de la licorne. Quand on regarde à travers le monde, c'est bien plus lointain dans l'histoire
des hommes. Par exemple, le kilin au Japon. Qui est un animal alors, qui peut prendre différentes formes, des fois deux cornes. Voilà, lui, il existe depuis 4000 ans, par exemple. À Babylone, on va trouver des sceaux avec des animaux unicornes. Alors, je ne vais pas dire licorne, parce qu'elle a une connotation chez nous qu'il n'y a pas ailleurs. Mais animaux unicornes, qui ressemblent fortement à la licorne que l'on a, nous, existent depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Et de toute manière, chez nous, notre bestiaire à nous, de toute manière, héritier du Proche-Orient. Voilà. On en parlera un jour, une autre fois.
Avec plaisir.
Mais effectivement, c'est vraiment héritier de là.
Est-ce que vous pensez qu'un jour la licorne pourrait disparaître de notre imaginaire ?
Jamais, malheureux. Halte là.
Des rétro-licornasses.
Peut-être, oui.
Donc non, oui. A priori, non.
Moi, je dirais non.
Parce que comme c'est un phénomène quand même, c'est très très à la mode aujourd'hui.
Alors, c'est comme toutes les modes. Je pense que cette mode-là, voilà, à un moment donné, il va y en avoir moins, forcément. Maintenant, ça reviendra. Voilà, elle est ancrée dans notre culture, vous savez, dans notre fond culturel depuis très longtemps, la licorne. Plus que n'importe quel autre animal. Donc, elle va rester là. Après, vous dire d'ici 10 000 ans, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas trop me prononcer.
Non, parce que si vous pouvez vous prononcer pour les 10 000 ans qui viennent...
J'essaie, mais je suis consultée, mais je dis non.
On va avoir besoin de vous. Alors, la licorne pourrait être sinon supplantée, tout au moins concurrencée, on va terminer avec ça, par votre sujet d'étude actuel,
oui.
Donc la sirène.
Exactement. Alors, vous tapez licorne, et vous l'avez dit sur le moteur de recherche, vous avez beaucoup d'occurrences. Alors, vous tapez sirène, vous en avez tout autant. Et ce sont les mêmes. Hein. On est sur de la paillette, on est sur de l'arc-en-ciel, voilà. Et voilà, moi, ça m'intéressait, d'autant plus que la sirène, hein, telle qu'on la connaît, hein, femme jusqu'au buste, après une queue de poisson, au départ, c'est un oiseau. Hein. Donc, comment on est devenu d'oiseau? On est passé à poisson. Le seul à le mentionner, à la mentionner, la sirène, c'est dans l'Odyssée, c'est Homère, mais il ne la décrit pas du tout. Hein. Et alors regardez tout ce que ça a donné, et dès l'époque grecque, où c'est un oiseau. Hein, c'est après qu'elle va migrer vers un poisson. Voilà. Donc ça, moi, ça m'intéresse en termes d'images, en termes de comment on les construit, ces images-là. Nous, on en héritier hein, de toutes ces images-là. Et puis la sirène, elle va être l'amie des philosophes. Ils vont s'en servir. Il y en a un, alors, je dirais des bêtises, je ne sais plus lequel, entre Aristote et Platon, je ne sais pas, je dirais des bêtises. En tous les cas, le monde, qui est fait de sphères de cristal, est maintenu par le chant des sirènes. Voilà, c'est merveilleux sujet d'étude. Là encore, effectivement, je parlais de pop culture, elle y est aussi avec tous les balles aquatiques, tous ces trucs-là. Et vous savez, allez, petit teaser quand même, au 19e siècle, pardon, des cirques, hein, comme le cirque Barnum montrait des sirènes qui malheureusement étaient mortes. Entre-temps, elles ne pouvaient pas être vivantes. Elles étaient des contrefaçons made in China. Hein, avec, mais c'est vrai, avec un haut de babouin et puis un corps de poisson. Bon, elles sont absolument immondes, hein, mais voilà.
Ouais, c'est passionnant de vous écouter, Sandrine Duclos. Puis en plus, en ce qui concerne la sirène, il y a énormément de traces des sirènes ici en Nouvelle-Aquitaine, oui. Et en particulier en Gironde et dans les Landes, puisque c'est une créature de l'eau. Et l'eau
exactement.
Est omniprésente.
Voilà. Autant la licorne est un animal de l'ailleurs que pour la sirène. Il y a beaucoup de légendes locales autour de la sirène.
On va se régaler. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec
Merci
nous, Sandrine
vous.
Duclos. Licorne aux éditions La Vallée Heureuse. À bientôt.
À bientôt.
France Bleu Gironde. France Bleu.